précédée, le fait que Dieu existe doit emmener un changement dans notre vie. Et voilà une des choses principales qui nous distingue du monde. Le monde rejette la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Le monde dit que nous sommes le fruit du hasard. Le monde dit que nous sommes le fruit d'un Big Bang, d'une explosion il y a quelques milliards d'années. D'ailleurs, entre parenthèses, moi je crois au Big Bang. Je sais du mot. Moi je crois au Big Bang. Tout simplement, ce Big Bang n'a pas encore eu lieu. Les athées, les évolutionnistes disent que le Big Bang a eu lieu au départ. Non, en fait, ils se trompent. Le Big Bang, on va dire à la fin. Quand on lit la deuxième épître de Pierre, quand on voit que les cieux se passeront avec. Thank you. sens ou dans l'autre. Mais donc, il est clair que le mariage soit honoré de tous, bien sûr les chrétiens, mais même dans le monde. Et la vie conjugale est en dessous du mur. Et il va expliquer par la suite ce qui veut dire par ces souillures. Et voilà la volonté de Dieu. Que déjà de manière pratique, dans le mariage, un homme, une femme qui s'unissent pour la vie devant Dieu, voilà ce que Dieu veut. Et en tant que chrétien, voilà l'idéal vers lequel nous devons tendre nous-mêmes et vers lequel nous devons encourager tous les autres qui nous entourent à tendre. Qu'ils soient honorés de tous, élevés, qu'il y ait du poids, une valeur là. Le mariage est quelque chose de très très important. Avant d'instaurer un gouvernement, avant d'instaurer l'Église, quelle est la première chose que Dieu instaure pour les hommes dans ces mariages? Adam, Ève. Et à eux deux, ils sont une famille. Vous savez, pour avoir une famille, tu as besoin d'enfants. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, je devais avoir 10, 11 ans, et dans une prédication, le prédicateur a dit, pour avoir une famille, les enfants ne sont pas nécessaires. Je me suis dit, mais c'est pas juste ça. Ah, les enfants, non. Et on les veut, bien sûr, mais en fait, aux yeux de Dieu, un homme, une femme ensemble dans le mariage, cela constitue une famille. Et à sa grâce, Dieu accorde des enfants, bon à Dieu, il faut les élever pour sa gloire. Mais Dieu dit, un mariage, c'est un homme et une femme qui s'unissent. Et c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de très important qui doit être honoré, c'est-à-dire élevé, exalté. Et on doit s'encourager les uns les autres à persévérer dans cela. Et puis il dit, bien sûr, le livre conjugal est en dessous du mur. Et dans la suite, il comprend, il va expliquer ce qu'il entend par cela, parce qu'on a ce petit mot, juste après cette phrase, car. Car. Et l'auteur ici montre, ce livre conjugal doit être exempt de souillure, on pourrait presque dire parce que c'est l'idée, Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et les, toute déviation dans ce domaine sexuel, dans ce domaine du mariage, attire le jugement de Dieu. Car Dieu jugera. Et l'auteur ici est ferme et certain, totalement convaincu de ce qu'il écrit. Ce n'est pas que peut-être Dieu jugera, qu'il est possible de temps en temps, et il le fera, pour certains, il va faire une exception, et pour d'autres, il va les juger, non. Dieu jugera. Il y a une certitude. Et puis, il parle de débaucher, littéralement, c'est le mot pornos, d'où nous avons en français notre mot pornographie. En fait, ce mot-là vient de là, et cela englobe toute forme de déviation sexuelle, tout ce qui sort du cadre normal voulu par Dieu. Et puis, bien sûr, adultère, ce mot qui va englober toute relation extra-conjugale, que ce soit avant ou après le mariage. Et nous voyons que Dieu va juger. Et de savoir cela en tant que chrétien, cela doit avoir un impact dans notre vie. Que Dieu ne reste pas indifférent à ces choses. Nous aussi, nous ne devons pas rester indifférents. Et bien sûr, cela doit faire aussi parce que nous recherchons l'argent et avancer dans la vie, nous mettons de côté notre devoir de glorifier Dieu dans notre vie. À ce moment-là, l'argent devient notre idole et l'auteur ici dit, nous ne pouvons pas faire cela. Mais l'auteur ici ne se contente pas de dire tout simplement, arrêtez de vous livrer à l'amour d'argent, pas l'amour d'argent et puis passez à autre chose. Non, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Il dit, commencez aujourd'hui à vous contenter de ce que vous avez. Et peut-être on va dire, mais on n'a pas grand-chose. On n'a pas ce qu'on aimerait, on n'a pas peut-être ce qu'on croit nécessaire. Et si nous sommes dans cette optique, l'auteur ici, bah, il pense peut-être que quelqu'un serait dans cette optique, donc il dit, car Dieu lui-même a dit, même mot, ce car, parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, cette phrase-là est parmi les phrases les plus encourageantes dans toute la vie. Parce que notre famille, parfois, nous déçoit. Nos amis nous déçoivent. Ceux qui nous entourent nous déçoivent. Mais l'Église, les frères en Christ, vont nous décevoir. Le gouvernement ne cesse de nous décevoir, n'est-ce pas? Les hommes politiques, ils promettent, ils ont des projets, font des promesses et tout, mais ils déçoivent. Et partout où nous regardons, nous sommes déçus. Mais Dieu lui-même dit, je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Et de savoir cette vérité-là, et d'en être entièrement convaincu, de rester accroché à cette vérité, nous permet d'avoir le contentement au bout de lui. Et Paul avait cette même attitude dans l'Épître aux Philippiens. Souvenez-vous, il est au fond d'une prison, il est enchaîné, il n'a pas la liberté, et pourtant il peut dire, j'ai tout reçu, je sais vivre dans l'abondance. Par moments, il était très bien. Ça se passait très bien. Je sais vivre dans la vie. J'ai appris le contentement. Et Paul, il comprenait très bien ce principe. Et l'auteur ici dit, bah, il faut se contenter de ce que nous avons. Non pas parce qu'au fond de nous, nous croyons que c'est tout ce qui est nécessaire, nous avons tout ce que nous voulons, il faut. Non, non, non. Parce que Dieu dit, bah, je suis avec toi. Parce que je suis avec toi, je vais m'assurer que tu es tout dont tu as besoin. Mais je vais t'aider à faire la distinction entre les besoins et les envies. On a beaucoup d'envies. Moi-même, j'ai pas mal d'envies. Et pourtant, ces envies, parfois très légitimes, ne sont pas ce qui est nécessaire. Ne répondent pas et ne correspondent pas à de vrais besoins. Et Dieu se plaît à répondre à, et à combler nos envies. Dans mon Père Céleste, très souvent, Dieu va nous donner plus que ce qui est nécessaire. Mais il promet de répondre à nos besoins. Par amour et par grâce, il va répondre aussi à beaucoup de nos envies. Mais il promet toujours de répondre et de combler nos besoins. Et lui, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Parfois, nous avons le sentiment que tout le monde le délaisse. Oh, il avait aussi ce même sentiment. Encore une fois, l'Épître aux Philippiens, il dit qu'un tel est parti dans une telle ville, celui-là, je l'ai envoyé pour telle ou telle mission, je n'ai personne ici, le seul est avec moi. Et Paul, par moment, il avait l'impression d'être assez seul. Et lui aussi s'est dit ben, je suis le seul, Seigneur, j'ai fait ta volonté, mais je suis resté seul, il n'y a plus personne qui te loue, qui t'adore. Il avait ce sentiment d'être seul. De n'avoir aucun soutien. Parfois, dans cette vie, on peut ressentir un peu cela. Dans notre quartier, peut-être on est le seul chrétien. On travaille, peut-être on n'a pas de collègues chrétiens. On se sent un peu isolé, on se sent seul. Et on se dit, mais j'aimerais avoir quelqu'un. Seigneur, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me fortifier. Et peut-être Dieu enverra quelqu'un. Mais jamais. Il reprendrait ses premiers psaumes. C'est psaume tellement encourageant. Et l'auteur ici comprend. Dieu est toujours là, malgré mes sentiments. Je peux avoir le sentiment que Dieu me délaisse. Mais ce sentiment ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que Dieu est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons nous contenter. Ce qui semble pour nous un manque, il nous manque quelque chose. En réalité, c'est Dieu qui met à l'épreuve. C'est Dieu qui accomplit son plan parfait dans notre vie. Et aussi dur que cela puisse paraître d'accepter, Dieu veut que nous l'acceptions. Parce qu'il est avec nous. Il ne reste pas insensible à notre situation, à nos besoins. Non, il est là. Quel parent ne voit pas les besoins de ses enfants sans essayer de faire quelque chose? Ce serait un parent pas digne de ce nom qui verrait son enfant dans le besoin et qui ne ferait rien. Donc Dieu n'est pas du tout comme cela. Mais également, il continue sa pensée parce que, en fait, il cite ce verset dans l'Ancien Testament, il continue sa pensée dans le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et ceci rejoint les versets dans 15 que nous sommes en train de voir en première partie le dimanche, où Jésus dit à ses disciples, si vous haïssez, là c'est parce qu'ils m'ont haï avant vous, et je suis avec vous, même si on vous persécute, là, je suis là, je vous soutiendrai. Et j'aime le début du verset 6, qui dit, c'est donc avec assurance, confiance, et j'aime bien cette image d'un roc, quelque chose de solide, inébranlable, on ne peut pas du tout être bougé. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Parce qu'il y a une grande différence entre dire je ne crains rien, mais pas vraiment croire cela, et puis je ne crains rien et être entièrement convaincu de ses vérités. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il me paraît, j'étais quelqu'un de très pauvre. J'avais toujours peur. À un point où, quand j'étais bébé, quand mon père rentrait du travail, il ne pouvait pas du tout me parler avec sa voix normale. Il fallait qu'il parle à la fois tout gentil, parce que s'il parlait normalement, ben je me mettais à pleurer, j'avais peur et tout. Et pareil, c'est ce qu'on me dit. Thank you. changement des impacts. choses à changer, il y a des choses à commencer à refaire. Passez plus de temps dans la parole, passez plus de temps dans la Bible, passez plus de temps avec les chrétiens dans la communion fraternelle. Parce que lorsque nous